prêté pour un enlu entre les Uruguayens et le Brésilien Coração qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Notre ami Nagy à la réalisation, toute l'équipe digitale. Bonsoir à toutes et à tous. L'avant-match, on reviendra sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. Il y avait des journées de championnat en Italie, en Espagne, en France. La Coupe de la Ligue en Angleterre avec un match fou. Liverpool face à Arsenal, 5 partout. L'épreuve des tirs au but a départagé les deux équipes. Et puis l'Italie, il y a une polémique à propos de l'arbitrage. L'Inter qui se plaint. Naples aussi, il y a eu même l'expulsion de Carlo Ancelotti. En Espagne, le Real Madrid va mieux. Et puis on parlera également du Barça, de l'Atlético. Ça sera dans la deuxième partie avec Frédéric Kermel. La première, eh bien on ira en France et également en Italie, sans oublier l'Angleterre. Hervé Penaud est avec nous. Bonsoir Hervé.
À vous les amis, comment allez-vous ? C'est un plaisir d'être en votre compagnie, comme d'habitude.
Très bien Hervé, merci beaucoup. Avant de revenir sur l'actualité en France, Hervé, un petit mot sur le football en Afrique. On le sait, il y a la Coupe de la CAF, les matchs retour qui se disputent ce week-end. C'est le tour de cadrage et après on accède à la phase de poule. Et d'abord, cette histoire en Côte d'Ivoire, parce que la fédération, après plusieurs stars, c'est Didier Zokora qui rejoint la DTN en tant que conseiller. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, Didier Zokora? C'est celui qui détient le record de sélection avec la sélection. Il est un joueur qui a évolué un peu partout en Europe, Hervé.
Oui, c'est absolument, c'est une très très bonne chose, parce que c'est toujours intéressant quand les anciens joueurs amènent leur potentiel, leur connaissance, leur culture du football de haut niveau dans des championnats un peu mineurs, hein, puisque la Côte d'Ivoire a un championnat qui s'est très largement détérioré depuis des années. Donc en travaillant avec les DTN, il va pouvoir peut-être impulser quelque chose, mais tant c'est à lui de prendre aussi tout ça en main, hein, de travailler de manière rigoureuse et intelligente. Alors, ce qu'il faut comprendre en Côte d'Ivoire, si vous voulez, c'est qu'en ce moment, il y a tout un jeu de chaise musicale qui est en train de se mettre en place, puisqu'il y aura l'élection à la présidence de la fédération qui devra avoir lieu l'année prochaine, je pense. On parlait peut-être de fin d'année ou de l'année prochaine. On sait que Didier Drogba a glissé qu'il s'intéresserait à ce poste. Donc imaginez Didier Drogba qui veut devenir président de la fédération, ça remue un peu les foules et les gens. D'un autre côté, Sidi Diallo n'a pas du tout dit qu'il voulait abandonner ce poste. Donc d'une certaine manière, lui se positionne aussi en amenant un ancien joueur à ses côtés. Et on sait que Bonaventure Kalou, hein, qui est maire d'ailleurs là-bas, a aussi des visées sur la fédération ivoirienne de football. Donc vous voyez, il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire. Alors là, je pense que c'est aussi une manière pour Sidi Diallo et de la présidence en place, hein, c'est-à-dire même Sori Diabaté, hein, qui est le directeur de la Ligue et puis un peu le vice-président qui est très proche de Sidi Diallo. C'est une manière aussi de dire que nous aussi, on a des anciens joueurs avec nous. Donc, c'est un petit combat des chefs qui est en train de se passer dans les coulisses, qui n'est pas inintéressant, mais je pense que c'est une très bonne idée, en tout cas, de pouvoir faire appel aux compétences de gens qui ont réussi à l'extérieur.
Voilà donc pour ce petit crochet l'Afrique. On aura l'occasion de revenir sur les résultats de la Coupe de la CAF ce week-end et également lundi prochain dans l'après-match. On ouvre la page football français. Il y a pas mal de dossiers. Cavani côté Paris Saint-Germain, Ben Arfa qui peut-être va continuer à faire le tour des clubs français. Et d'autres dossiers à l'image de l'OM. C'est vrai que manque de chance, le calendrier, affronter le Paris Saint-Germain. Ensuite, Monaco qui se porte nettement mieux. Et puis Lille et Lyon, les prochaines sorties. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'OM, Hervé?
Eh ben l'OM ça va mal parce que la défaite contre Monaco en Coupe de la Ligue cette semaine, alors ça n'est que la Coupe de la Ligue, mais pour l'OM ça a été important parce que ça survenait juste après le fameux Classico où ils avaient été ridiculisés pendant une mi-temps avant de faire jeu égal entre guillemets, hein. C'est-à-dire que Paris n'avait pas insisté, ils avaient quand même pris une dérouillée 4-0 et tout le monde était tombé sur André Villas-Boas qui avait expliqué en gros que le Classico c'était fini, on n'en parlait plus, on passait à autre chose, mais en ne comprenant pas en fait les subtilités locales, hein, parce qu'on peut pas parler de ce match-là à Marseille comme si c'était un match comme un autre. Ça, c'était une erreur de sa part. Et malheureusement, il n'a pas pu rebondir le match d'après contre Monaco. Ils ont été éliminés et arrivent pour Marseille les deux matchs clés. Alors, je ne dis pas de la saison, mais enfin, deux matchs qui vont compter aujourd'hui pour eux. C'est-à-dire que c'est Lille ce week-end et Lyon la semaine prochaine. Les deux adversaires, deux des adversaires avec Monaco qui sont vraiment dans les clous pour essayer de décrocher une des places sur le podium dans les 3, 4, 5 premières places. Alors Marseille conserve quand même quelques atouts, faut pas l'oublier. Benedetto va revenir, il n'était pas là ce week-end. Peut-être qu'Alvaro va être aussi de retour. Alors ça on sait pas parce qu'il était sur le banc la dernière fois, il n'a pas joué mercredi. Donc va falloir prendre ça avec pas mal de pincettes, hein, son retour. Parce qu'il faudrait pas qu'il se blesse une deuxième fois alors qu'il avait été très utile depuis son arrivée en tant que défenseur central. Thauvin n'est pas là, alors lui, on verra ça au mois de janvier, hein, quand il va revenir de sa blessure. Donc, Marseille n'a pas un mauvais effectif en soi. Simplement, pour l'instant, ça ne carbure pas. André Villas-Boas, ben, il a une semaine un peu compliquée. Il va falloir qu'il rebondisse dès samedi. Et je crois que là, il a pas trop le choix. Parce que si jamais il y avait un mauvais résultat contre Lille, ben là, ce sera un vrai coup dur pour lui. Alors, lui, en tant que tel, il n'est pas vraiment impacté par les mauvais résultats. Il n'y a pas de question du tout aujourd'hui que la direction se sépare d'André Villas-Boas, qui est quand même un bon entraîneur et qui a déjà prouvé ailleurs. Mais ça ferait perdre peut-être quelques illusions aux supporters marseillais et ça risquerait de se terminer en bronca. Donc aujourd'hui, ce match contre Lille est vraiment capital. Moi, je crois Marseille capable de rebondir. C'est une équipe qui a quand même quelques potentialités, qui a pas énormément de joueurs, mais maintenant qu'elle est délestée de cette Coupe de la Ligue, il lui reste plus que la Coupe de France et le championnat. Ben, contrairement à d'autres effectifs comme celui de Lille, hein, même si Lille n'a pas joué cette semaine, puisque les clubs en Ligue des Champions ne jouaient pas la Coupe de la Ligue, il n'empêche que ce peu de matchs, si vous voulez, font qu'à un moment, avec l'effectif qu'a Marseille, je pense qu'ils peuvent enclencher une dynamique positive, même s'il y a des trous dans cet effectif, et notamment à la place de milieu défensif, on est allé chercher Rongier, qui était plutôt une erreur, c'est pas un mauvais joueur en soi, mais qui correspond peut-être pas au problème d'équilibre que pouvait avoir l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà quasiment au pied du mur contre Lille, adversaire direct, et puis après, j'en parle même pas contre Marseille, contre Lyon, la semaine d'après, imaginez le retour de Rudy Garcia au Stade Vélodrome. Et si jamais, par malheur, pour les Marseillais évidemment, il venait à s'imposer au Stade Vélodrome, ce serait vraiment, alors là, une catastrophe absolue, vu qu'il est parti dans très mauvais termes avec les supporters. Alors s'il venait en leur chipper en plus 3 points au Stade Vélodrome, ce serait un coup très dur. Donc oui, alors André Villas-Boas là joue gros cette semaine. Mais Marseille reste 7e du championnat, n'est qu'à 1 point de Lille, hein, et n'est qu'à 2 points. N'est qu'à 3 points pardon, de la deuxième place, celle de Nantes. Donc c'est-à-dire qu'une victoire pourrait les propulser, les Marseillais, très haut. Donc c'est pas encore une crise, si vous voulez, mais ça pourrait y ressembler si au bout des deux prochains matchs, il y avait des mauvais résultats.
L'OM capable ou pas de rebondir? On va parler de deux joueurs. Et sont-ils capables de rebondir? Encore faut-il leur donner l'occasion. Je parle de Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain, longtemps blessé. Et puis également Hatem Ben Arfa qui essaye de trouver un club. On parle de Nice, on parle de Nantes, même si du côté de Nice, Patrick Vieira n'en veut pas, Hervé.
Oui, alors on va parler déjà d'Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, si vous voulez, c'est le joueur qu'on attend, qu'on ne voit toujours pas. Hein, il est parti de Rennes dans des termes un petit peu particuliers, où il n'avait pas hésité à mettre 2-3 petits coups de canif à son entraîneur et à sa direction, ce qui était quand même plutôt étonnant pour un club qui l'avait relancé. Bon, ça, passons. Mais là, depuis, on attend de voir ses arabesques, parce que c'est vrai que c'est un joueur ultra talentueux. Alors, Patrick Vieira a fermé la porte tout de suite. Il a dit, de toute façon, lui, ça ne correspond pas au projet de jeu qu'il a, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et plus surprenant, c'est que Nantes, avec Christian Gourcuff à sa tête, est visiblement intéressé. Alors, non, il est intéressé, Nantes est intéressé, ça c'est sûr. Kita est très intéressé par le joueur. Et apparemment, Christian Gourcuff a donné son accord et serait aussi d'accord pour le recevoir. Je connais très bien Christian Gourcuff, qui a entraîné d'ailleurs l'équipe nationale d'Algérie, hein, comme on se souvient. Mais c'est tout à fait le joueur qui n'entre pas dans ses caractéristiques. Parce que lui, il a besoin de joueurs qui soient très collectifs. Il veut un certain style, une certaine idée du football. Alors c'est vrai qu'Ben Arfa va vous apporter autre chose, mais ça correspond pas à ce que lui recherche. Et sachant que Nantes, pour l'instant, est quand même classé 2e du championnat. C'est-à-dire que Nantes fait un super début de saison avec un effectif très moyen, il faut quand même le dire, mais avec une vision de jeu, une manière de jouer qui est très Gourcuff compatible. Alors qu'avec Ben Arfa, ça change complètement les choses. C'est-à-dire que vous avez évidemment quelqu'un de beaucoup plus talentueux qui va vous éclairer des matchs, qui va vous faire lever le public. Mais le problème, s'il ne fait pas les efforts pour les autres qu'attend Gourcuff, pour les quelques buts qu'il va marquer et les quelques actions de génie qu'il va donner, eh ben peut-être que l'équilibre de l'équipe de Nantes va s'en trouver amoindri. Alors, faut faire très attention à ça. Et j'étais un peu surpris de voir la réaction même de Gourcuff, qui en gros a sous-entendu qu'effectivement, si un joueur pouvait lui apporter un plus, il serait pas contre. Mais moi, j'ai travaillé avec Christian Gourcuff, je sais un peu ce qu'il pense différences des uns et des autres. Et alors je dis pas qu'on l'a forcé à le dire, mais il n'a pas voulu fermer tout de suite la porte à une arrivée de Ben Arfa, parce que c'était peut-être se mettre tout de suite en compétition ou en guéguerre ouverte avec son président, mais il n'empêche que ça correspond pas du tout au profil de joueur qu'il a. Et je n'oublie pas quand même que Claude Puel avait expliqué que finalement c'était pour Ben Arfa qu'il avait changé radicalement, c'était la première fois qu'il avait autant changé ses entraînements, parce que lui, il n'avait jamais eu l'habitude d'avoir un joueur qui dépasse un peu le cadre du collectif. Lui, il avait toujours une vision collective du football, donc il avait dû s'adapter finalement à Ben Arfa quand il était à Nice, alors avec les avantages que ça pouvait procurer, mais aussi les inconvénients, et puis les grincements de dents de certains coéquipiers. À l'entraînement, vous ne faites pas toujours ce qu'il faut, vous n'êtes pas toujours à l'heure, il y a quelques soucis, etc. etc. Et ben, ça peut poser problème. Mais attention, je ne veux pas dépeindre Ben Arfa comme un joueur difficile à gérer, parce que c'est quelqu'un qui a une grosse cote dans les vestiaires, qui est très très sympa, qui a un potentiel incroyable. Moi, je pense plutôt c'est le fait qu'il arrive à Nantes avec Gourcuff, je trouve qu'il y a un côté ça matche pas tellement, voilà, en gros.
Rapidement Hervé, Cavani, rapidement.
Et sur Cavani, alors rapide Cavani, bah Cavani, hein, je l'ai souvent dit, de toute façon, depuis très longtemps, je pense que ça peut être un souci pour Neymar Mbappé. Aujourd'hui, vous avez récupéré Icardi qui est techniquement beaucoup plus juste, qui peut jouer facilement avec ses coéquipiers, ce que ne peut pas faire Cavani, eh bien, vous avez un Cavani qui va se retrouver évidemment derrière tout ça, plus derrière Di Maria qui est encore là. Donc imaginez un match, une équipe qui est en 4-3-3 en Coupe d'Europe sur les gros matchs. S'il y en a que 3, ce sera Neymar Mbappé, ça c'est assuré. Et le troisième, Di Maria en ce moment marche sur l'eau, mais on ne sait pas dans quelques mois, vous aurez Icardi. Et malheureusement pour Cavani, bah Cavani sera ce joueur de plus, ce joueur de complément. Attention, c'est un joueur énorme, immense, etc., etc., mais qui est rentré quand même la dernière fois comme ailier gauche. Ça lui a rappelé ses années Ibra, et il n'est pas rentré comme attaquant de pointe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est passé derrière tout le monde. À lui de montrer qu'il est encore là, qu'il est présent pour marquer des buts. C'est l'idole du Parc des Princes, il ne faut pas l'oublier, le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais, je crois que maintenant, le temps est un peu terminé, même si, attention, même sur 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il peut vous rendre des services incroyables. Et qui vous dit que ce n'est pas lui qui marquera le but de la victoire finale en Ligue des Champions à la 85e après être rentré à la 70e? Voilà, je fais un peu de prospective. Mais ça veut dire que ça reste quand même un joueur très utile pour le club, mais pas le premier joueur attendu par Tuchel.
Merci beaucoup Hervé Penaud pour toutes ces précisions. Le football français-africain dès dimanche, plutôt lundi prochain, le week-end s'annonce intéressant. On prend la direction de l'Italie. Avant cela, nos auditeurs, bien sûr, Walbeda, Fakhri Moumine, Abou Ahmed Zahri ou encore Najat Saidi, qui passent le bonjour à toute l'équipe. Simone Rovira, notre monsieur football italien, est avec nous. Bonsoir Simone.
Ciao, bonsoir.
Simone au téléphone. Avant de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end avec, on le sait, l'Inter, Naples qui se plaignent de l'arbitrage, la Juve s'est imposée à la toute dernière minute du temps réglementaire, même on a dépassé le temps réglementaire sur un penalty. À l'origine c'est Cristiano Ronaldo qui le transforme, on va revenir dans un instant, mais d'abord le derby, la Juve face à Torino. Et cela fait quelques années que Torino n'a plus jamais battu la Juve, Simone.
Ouais, ça fait plusieurs années, là, la dernière, on se souvient, le but de Darmian dans cette victoire 2-1 du Torino. Aujourd'hui, la situation est presque dramatique pour le Torino, qui jamais a été si en difficulté depuis plusieurs saisons, avec l'entraîneur Mazzarri, qui est plus que sur la sellette. On parlait de l'hypothèse de ne pas voir sur le banc de touche pour le derby. Le président Cairo l'a confirmé, mais ça pourrait être son dernier match s'il n'arrive pas à faire un bon résultat face aux Bianconeri. Bianconeri qui ne sont pas très en forme, tu l'as dit, ce match face au Genoa, c'était pas les meilleurs de la saison, ou quand même, ça fait dans la continuité d'une saison avec beaucoup plus d'ombre que de lumière. Mais ces derbys, on le sait, c'est les matchs où tout peut arriver. Torino a quand même des individualités de top niveau, dans le but de Sirigu, un coulu en défense, surtout Andrea Belotti, l'attaquant de la sélection italienne. Et sur un match comme ça, la fierté, l'état d'esprit, l'envie de revanche, tout peut arriver, surtout, comme j'ai dit, face à un Juventus qui est en difficulté beaucoup face à l'équipe qui défend. Et Torino, c'est une équipe qui généralement défend très bien. C'est une période un peu compliquée. 4 buts encaissés face à la Lazio montrent ça. Mais généralement, les 3-5-2, ou mieux les 5-3-2 de Walter Mazzarri, une équipe très solide défensivement. Et on l'a vu face au Genoa, face au Bologna, face à la Spal, la Juve, face à des équipes qui défendent bien, se trouvent souvent en difficulté.
Simone, cette semaine, on a parlé de polémique, même Carlo Ancelotti L'entraîneur de Naples a été expulsé. Naples qui a été contraint au partage des points. L'Inter qui a dénoncé un pénalty généreux en faveur de la Juve alors que le temps additionnel était écoulé. Et bien entendu, le week-end s'annonce intéressant parce que la lutte pour le titre, même si c'est un peu tôt, mais la lutte a déjà commencé et les polémiques aussi, Simone.
Bah, les polémiques, ils sont bouillants en Italie. On peut dire qu'on parle presque plus de ce qui se passe autour de l'arbitrage, de ce qui se passe sur le terrain. Et la VAR, en tout ça, n'a rien changé de tout ce que c'était polémique avant. Il faut contextualiser ce qui s'est passé à Naples parce que c'est plutôt étonnant de voir Carlo Ancelotti se faire exclure. C'est très rare, c'est la première fois qu'il arrive cette saison. Il s'est fait exclure une fois la saison dernière, mais c'est parce que, comme on dit, à Naples, on vit beaucoup la polémique. Naples a demandé un pénalty sur une action.
Simone, on a quelques problèmes de liaison. On rappellera que l'Inter a été, bien sûr, a dénoncé l'arbitrage puisque la dernière action de la Juve, c'était face à Brescia. Le score était d'un but partout. Il y a eu d'expulsions, un de chaque côté. Simone, on vous écoute.
Oui, l'Inter était un peu énervé pour voir ces pénaltys où Cristiano est magistral à chercher les contacts avec l'attaquant de Genoa qui faisait le défenseur, mais qu'on savait bien que c'était un peu le maillon faible sur cette action. Et à la 96e minute, il obtient et transforme en pénalty. Et comme je disais, Naples aussi s'est plaint beaucoup pour un pénalty sifflé sur Llorente qui a amené aussi à faire exclure Carlo Ancelotti. On est en pleine lutte pour le titre. La Juve est devant l'Inter d'un point. Il est déjà en pleine lutte pour la polémique. Aujourd'hui, Antonio Conte, en conférence de presse, a parlé beaucoup du VAR. On ne comprend pas comment ça fonctionne. On dirait qu'il cherche de mettre la pression. Demain soir, il y a un match très compliqué face à Bologne. Qu'on parlera encore.
Merci beaucoup, Simone Rovera. On va essayer de se racheter la semaine prochaine pour revenir sur ce qui a fait l'actualité en Italie. La liaison est un peu difficile. Avec Simone, on passe directement au football anglais avec Aurélien de Vernois. Avant de parler de ce match entre Liverpool et Aston Villa, qui là aussi fait polémique parce que les deux équipes devront s'affronter en Coupe de la Ligue. Eh bien, ça va coïncider avec la Coupe du Monde des clubs. Liverpool est le champion d'Europe. Mais avant cela, ce match fou entre Liverpool et Arsenal en Coupe de la Ligue. 5 partout à l'arrivée. Bonjour Aurélien.
Bonjour Hakim, bonjour à tous.
Et d'abord donc ce match que je disais entre l'équipe de Liverpool et Arsenal, une course poursuite et à l'arrivée l'épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes.
Haletant de bout en bout, hein, parce que je rappelle rapidement ce qui s'est passé, hein, c'est Arsenal qui a pris rapidement les devants, puis en menant de 2 buts à 2 reprises, puis Liverpool est revenu dans la partie avant d'être mené 5-4 à quelques secondes de la fin du match et de revenir sur une espèce de reprise improbable de Origi à la dernière seconde et puis finalement de s'imposer au tir au but. C'était vraiment un match très intéressant parce que ça a été deux équipes qui n'ont jamais fermé le jeu, qui ont vraiment tenté de la première à la dernière seconde d'aller s'imposer. C'était un match comme finalement on n'en voit pas tant que ça en Angleterre parce que souvent quand une équipe commence à marquer des buts, c'est qu'elle est vraiment supérieure et du coup ça s'impose assez largement. On se rappelle du fameux 9-0 passé par Leicester à Southampton la semaine dernière. Là, c'était deux équipes qui étaient fortement remaniées puisque les deux entraîneurs, Jürgen Klopp et Unai Emery, avaient décidé de laisser la place à des jeunes joueurs. Du côté de Liverpool, il y avait 3 joueurs de moins de 20 ans dans l'équipe titulaire. Et puis du côté d'Arsenal, il y avait là aussi des jeunes joueurs et notamment des joueurs qui jouent pas mal en Europa League. Et on pense au jeune milieu offensif attaquant Martinelli, qui est très très bon depuis le début de saison, qui n'est pas titulaire en championnat, mais qui là encore a démontré que c'est un joueur très prometteur en inscrivant un doublé. Du côté de Liverpool, c'est plutôt les grognards hein, qui ont sauvé la mise parce que c'est Milner, c'est Origi, c'est Oxlade-Chamberlain qui ont marqué les buts et ça a été un match vraiment complètement fou avec aussi des très beaux buts, hein, des frappes de loin, des belles combinaisons Et quelques erreurs aussi, parce que voilà, il y avait des joueurs pas forcément très expérimentés, notamment du côté de Liverpool, qui ont fait des petites erreurs qui ont conduit à des buts. Des joueurs plus expérimentés du côté d'Arsenal, on pense à Socratis qui a fait une erreur assez incroyable aussi pour le premier but de Liverpool. C'est vraiment deux équipes qui sont très intéressantes même.
Voilà, deux équipes intéressantes, Liverpool bien entendu, et on va parler surtout de ce qui va venir. Liverpool doit affronter l'équipe de Crystal Palace, l'Aston Villa plutôt, et ça pose polémique parce que eh bien, la Coupe de la Ligue qui coïncide avec la Coupe du Monde des clubs, Aurélien.
Une équipe qui joue bien, une équipe qui pose des difficultés à quasiment tout le monde. Alors même s'ils ont perdu assez nettement contre Manchester City le week-end dernier, le déplacement de Liverpool est loin d'être aisé. Mais alors c'est assez intéressant parce que Liverpool va rejouer Aston Villa en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ça sera normalement le 17 ou le 18 décembre. Mais il y a un problème, c'est que à ce moment-là, Liverpool eh bien, sera en train de jouer la Coupe du Monde des clubs. Et Jurgen Klopp s'est montré très, on va dire, ironique, un petit peu cynique par rapport à cette programmation-là. Déjà, on sait que l'entraîneur allemand râle très souvent sur le fait que le calendrier est beaucoup trop chargé pour son équipe et pour les équipes anglaises en général. Là, c'est vrai qu'avec une compétition supplémentaire qui est la Coupe du Monde des clubs, ça devient quasiment insoluble. Et on se retrouve vraiment confronté clairement à un problème de calendrier. Comment va faire Liverpool pour aligner une équipe en quart de finale de la Coupe de la Ligue et probablement en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs? Ça sera quasiment le même jour ou à un jour d'écart dans le meilleur des cas. Jurgen Klopp a dit, écoutez, moi je suis prêt à envoyer les jeunes, les moins de 17 ans, les moins de 18 ans jouer ce quart de finale contre Aston Villa, ce qui évidemment ferait grincer des dents du côté de la Ligue anglaise, parce que pour une compétition nationale qu'une équipe comme Liverpool envoie des joueurs totalement expérimentés se faire fusiller sur la de Villa Park, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que finalement la Ligue va décider de déplacer ce quart de finale? Est-ce que Liverpool va tenir bon et dire de toute façon c'est ça ou rien? Ça va être probablement un bras de fer qui va durer encore quelques semaines.
Aurélien de Vernon, notre monsieur football anglais, merci beaucoup et à lundi prochain. Liverpool, c'est le champion d'Europe, c'est le champion d'Angleterre et qui va représenter l'Europe lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Merci beaucoup. Dans un instant, la deuxième partie de l'avant-match. La deuxième partie de l'avant-match, on a parlé du football tout à l'heure dans la première partie, football italien, français, africain et anglais. L'Espagne et l'Allemagne à l'honneur dans cette deuxième partie. Bien entendu, on va revenir dans un instant sur ce derby historique en Allemagne. Ça sera à Berlin. On va parler également des problèmes de l'entraîneur du Bayern Munich. L'Espagne aussi avec nos consultants. David Lortolari pour l'Allemagne. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous et salut à Fred.
Frédéric Hermel également est avec nous. Monsieur football espagnol, bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir David, bonsoir à tous.
Avant de commencer et revenir sur ce qui s'est passé cette semaine en Espagne aussi, les deux équipes, en tout cas le Real et le Barça, se sont imposées. L'Atlético Madrid, c'est le quatrième match nul en cinq matchs. D'abord, une question d'un auditeur, c'était la semaine dernière, mais on n'avait pas le temps. Et il parle de Yacine Bounou, le gardien, l'international marocain, qui a quitté, on le sait, Gérone pour le FC Séville. Il est remplaçant. Il manque de compétition et d'ailleurs ça s'est vu lors du dernier match amical du Maroc avec une erreur sur un but, on l'a vu dans ses actions. Fred, vous avez suivi Yacine Bounou, excellent gardien, il a réussi une belle saison même si son équipe a perdu sa place en première division. Là, il manque de compétition et les éliminatoires vont bientôt commencer, ça sera dans moins de deux semaines. C'est un bon choix? C'est une question d'un auditeur.
Ah, la question est très compliquée. Parce que c'est vrai que Yacine Bounou, qu'on appelle Bono ici en Espagne, était l'un des meilleurs gardiens de la Liga la saison dernière avec Gérone. Girona, comme on dit en catalan. Il n'est pas du tout responsable du fait que cette équipe soit descendue en deuxième division. Et il paraissait évident qu'un gardien de ce talent méritait la première division et pas ce qu'on appelle ici l'infierno, l'enfer de la D2. Est-ce qu'il a fait le bon choix? On est obligé de reconnaître que non, pour l'instant, parce que le gardien Vaglik, le tchèque de Séville est le numéro 1 pour Julen Lopetegui. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, même pas du tout pour Bono. Un gardien, surtout à son âge, il est encore jeune, il a besoin de beaucoup jouer. On peut se poser la question s'il ne serait pas intéressant pour lui de partir au mois de janvier. Parce que il grandit. Vous êtes Buffon, par exemple, vous êtes au PSG, vous ne jouez pas beaucoup, mais vous avez 40 et quelques années. C'est pas grave, votre carrière est derrière vous. Mais lui, il a besoin de grandir. Il a besoin d'expérience, il a besoin de jouer pour progresser, et c'est pas le cas. Donc, au moment où on se parle, pour répondre à la question de notre auditeur, oui, c'est une erreur d'avoir choisi Séville, mais c'est une erreur compréhensible. Quand vous êtes à Gérone, qui descend en D2, et que l'une des grandes équipes espagnoles, qui n'est pas n'importe qui au niveau européen, vous propose de jouer, vous avez toujours l'impression et la confiance d'être compétitif et de piquer le poste du premier gardien. Donc c'est une erreur, oui, mais qu'on peut comprendre.
Et la hiérarchie peut changer parce que, eh bien, on l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, Yacine Bounou était le numéro 1 et actuellement, et peut-être c'est le gardien Hamdi, le gardien de Malaga qui pourrait récupérer la place de numéro 1. Vous voyez, David, il n'y a pas qu'en Allemagne qu'on a des problèmes de gardien et cette classification 1 et 2.
Oui, c'est vrai qu'en Allemagne, ça, on n'en sortira jamais jusqu'à la fin de carrière de Manuel Neuer. Pour ce qui concerne le top niveau et l'équipe nationale, je pense qu'on pourra en reparler si on le souhaite à chaque émission, si vous en avez envie.
Voilà donc pour cette histoire de gardien. On reste en Allemagne, le Bayern Munich, là aussi. Depuis l'arrivée de Kovac, on a l'impression qu'il n'a jamais fait l'unanimité, quels que soient les résultats du club bavarois.
Alors exactement, ça c'est vraiment un postulat, il faut garder ça à l'esprit toujours, c'était le choix, c'était l'option qui avait été privilégiée par Uli Hoeneß, et Karl-Heinz Rummenigge était sinon réfractaire au moment de ce choix-là, du moins il n'y était pas chaudement favorable. Et ça reste forcément un peu dans les relations entre les deux présidents déjà, mais surtout avec cet entraîneur aussi, auquel Rummenigge n'hésite pas de mettre des petits recadrages par-ci par-là, y compris bien sûr dans ses déclarations publiques. Et ce qui passe mal en ce moment, de plus en plus mal, auprès des supporters, auprès des joueurs aussi, auprès de cette direction dont je parlais à l'instant, c'est que Niko Kovac, non seulement on ne sent pas au fil des matchs une équipe qui s'améliore, qui se met au point, qui progresse, mais en plus de cela, on ne sent pas un style propre, on ne sent pas un football dont on pourrait dire « ça c'est le Bayern d'aujourd'hui ». Ils ont ses points forts, ils ont ses points faibles. Non, aujourd'hui, ce sont des individualités qui font la différence. Il n'y a pas beaucoup de fluidité dans le jeu et l'entraîneur est de plus en plus critiqué pour cela. Il est fragilisé depuis le début, j'ai envie de dire, mais il l'est davantage aujourd'hui parce que son équipe n'est pas dans une progression et les joueurs, y compris les meilleurs en ce moment, que sont Gnabry et Lewandowski, finiraient presque par être tiré un peu vers le bas par ce manque d'identité simplement de l'équipe sur le terrain. Et ça, on va pas faire de prospection ni de projection dans le futur proche, mais ça risque de coûter cher à Kovac le jour où l'équipe perdra 2 ou 3 matchs d'affilée.
On va revenir bien sûr sur le Bayern dans un instant. Le Bayern, on le sait, est qui a un match important face à Francfort. Et puis surtout ce derby de Berlin, c'est historique. On va y revenir dans un instant. L'Espagne, Fred, beaucoup de sujets. On parlait à l'instant de l'entraîneur du Bayern qui ne fait pas l'unanimité. L'arrivée de Gareth Bale aussi au Real Madrid. C'est vrai qu'il a réussi quelques beaux matchs. Il a même permis au Real de remporter quelques titres. Mais il y a cette histoire, comme ce qu'est en train de vivre en ce moment Antoine Griezmann au Barça. La star de l'équipe de France, la star de l'Atlético Madrid, a du mal à se trouver une place parmi l'équipe et aussi parmi les stars et aussi parmi les supporters. On commence par Griezmann ou Gareth Bale, Fred?
On commence par celui que j'aime bien.
Oui.
Donc
Gareth Bale.
Mauvaise pioche. Donc par Antoine,
ouais, Griezmann, bien sûr. Ouais.
Antoine Griezmann.
Mais il n'écoutait pas l'émission parce que la saison dernière déjà, lorsqu'on avait parlé de Griezmann au Barça, Frédéric Hermel était contre. Donc. Voilà.
Mais oui, mais bien sûr parce que tu es Antoine, mon cher Antoine, je te parle directement. Tu es à l'Atlético, t'habites à Madrid, j'y habite, donc je peux dire qu'il n'y a pas de mieux au monde. T'es à l'Atlético, tu gagnes 22 millions d'euros. tout le monde t'aime, t'es la star, et tu es vraiment numéro un, tout le monde travaille pour toi, même si toi tu fais beaucoup d'efforts, et tu veux aller au Barça où le patron veut pas de toi. Le patron, c'est Lionel Messi. Et on a appris cette semaine, mon cher Hakim et mon cher David, c'est Gérard Piqué qui est en train de vendre sa Coupe Davis. Donc, il part dans les médias espagnols. Il a dit que les joueurs... Alors, il faut vous expliquer quelque chose. En Espagne, les gros clubs ne payent pas les joueurs tous les mois parce qu'ils sont assez riches. Donc, ils payent le 1er janvier, le 1er juillet. C'est-à-dire que ce sont des gros virements qui sont faits deux fois par an. Et Gérard Piqué a révélé que les joueurs étaient d'accord, comme le Barça manquait de liquidité, pour reporter de 6 mois, voire plus, le versement des salaires pour pouvoir payer l'arrivée de Neymar. Vous vous rendez compte du scandale que c'est? C'est-à-dire que pour Griezmann, mais c'est terrible. C'est-à-dire que les joueurs ne voulaient que Neymar. Et ils étaient d'accord pour ne pas toucher leur salaire à temps, pour que le Barça ait les liquidités pour payer le transfert de Neymar. Donc moi, je trouve ça très dur. Ça veut dire que les joueurs, alors que Griezmann avait été engagé, estimaient que Griezmann n'était pas celui qu'il fallait, parce que s'il y avait Neymar, c'est pas Griezmann qui aurait joué. Donc je comprends que la vie soit très dure pour Antoine. Et sur le terrain, il fait ce qu'il peut. Il était remplaçant lors du dernier match, puisque c'est Ansu Fati, la petite perle, la petite merveille barcelonaise, qui était titulaire. Donc Griezou, il avait fait un match la semaine dernière absolument extraordinaire, mais là on sent que il faut qu'il fasse toujours ses preuves et qu'il n'a pas la tendresse des types importants du vestiaire comme Suarez, comme Piqué, mais surtout comme Lionel Messi, et pas encore la reconnaissance du public, quoi. Donc là aussi, au moment où je vais répondre clairement à la question, comme je l'ai posé tout à l'heure pour Bono, j'y ai répondu tout à l'heure pour Bono. Est-ce que, au moment où je vous parle, Griezmann a eu raison d'aller au Barça? Bah, manifestement, non.
Et Gareth Bale, qu'est-ce qu'il a? Apparemment, son dossier médical ne doit pas être dévoilé. Il n'est pas le seul à le demander, mais apparemment, ça commence à poser vraiment cette histoire, à peser sur le club madrilène. Il n'est d'ailleurs pas retenu pour le match du Betis. On va y revenir dans un instant. Lui, James non plus. Mais peut-être il ne fait plus partie de l'équipe du Real. Enfin, pas dans les faits, mais dans la tête, peut-être il n'est déjà plus là.
Il n'est déjà plus là, mais est-ce qu'il est arrivé un jour? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, l'info que j'ai, et à l'instant, avant de vous parler, j'étais au téléphone avec quelqu'un du Real, parce que je bosse les émissions, faut pas croire, j'ai l'air cool comme ça, mais je travaille, je prépare mes émissions. Zidane compte encore sur Bale. Zidane considère que Bale peut être très utile dans les semaines et dans les matchs qui viennent. Mais vraiment, le problème de Bale, c'est que il est très bizarre. On a toujours l'impression qu'il n'est pas vraiment là. Alors, cette histoire de dossier médical, Bale, il parle pas espagnol. En tout cas, il parle très mal espagnol, mais il connaît parfaitement la loi espagnole. C'est très fort. Il dit qu'une entreprise, puisque le Real est une association, mais enfin, c'est un employeur, qu'un employeur ne doit pas communiquer sur la maladie, l'état de santé d'un de ses employés. En l'occurrence, Bale est l'employé du Real Madrid. Et donc, le joueur, à travers son agent, ses avocats, on demande au Real de ne pas publier d'informations au sujet de sa blessure. Mais de la même manière que Zidane, l'autre jour, quand on lui a posé la question sur Bale, il a dit « je ne peux pas le dire ». Enfin, c'est quand même absolument surréaliste. Tout ça pour dire qu'il a peut-être mal à la cuisse ou à l'adducteur, quoi. Donc, c'est une attitude qui démontre que Bale n'est pas quelqu'un de serein et qu'il est dans le conflit permanent. Mais j'insiste, et c'est une information dont je suis sûr, qui m'a été confirmée il y a quelques minutes avant cette émission, Gareth Bale reste dans les plans de Zidane. Il veut garder Gareth Bale. Et moi, Zizou, c'est lui qui me l'a dit directement. Non, Fred, je n'ai aucun problème avec Gareth Bale. Tout ce qu'on raconte autour, c'est faux. Après, que Gareth Bale soit un joueur fragile, qui ne peut pas jouer 2 matchs par semaine, qui ne supporte pas la douleur, ça, c'est une réalité. Mais Zidane n'est pas contre Bale. Et Bale n'a pas de problème, a priori, avec son entraîneur.
Bravo pour vos analyses, Frédéric Kermel. C'est Youssef Laroche qui écrit ça. Il se posait la question tout à l'heure à propos d'Antoine Griezmann. Voilà donc pour Youssef Laroche et la réponse de Fred Samir Ouarab, qui passe le bonjour à toute l'équipe Zinedine Derich. Merci également à nos auditeurs. Fred, on va parler. On rappellera que le Real s'est imposé nettement face à Leganés. C'est vrai que Leganés, c'est l'équipe du bas de tableau, comme Valladolid, battu 5-1 face au Barça. Messi étincelant, mais bon, Messi, on l'attend dans des matchs comme Liverpool face à la Roma et pas en championnat, même si on le voit, les difficultés que le Barça a eues en début de saison en l'absence de Messi. On va parler du match de Betis face au Real, mais avant cela, il y a un derby en Allemagne, on en parle beaucoup, deux équipes allemandes. Enfin, allemande, c'est normal, en championnat Bundesliga, mais surtout deux équipes de Berlin qui s'affrontent, David.
Oh oui, et c'est historique vraiment parce que ce championnat est récent dans sa formule du moment. Hein. C'est un championnat qui n'est né qu'en 1963, la Bundesliga. Mais il y a eu quand même déjà des clubs de Berlin dans ce championnat. Il y en a eu 5 au total. Le Hertha, je crois, y a passé 36 saisons. Il y a eu d'autres clubs. Il y a eu le tennis Borussia. Il y a eu le Tasmania. Il y a eu le Blau-Weiß aussi. Et c'était uniquement des clubs de la partie ouest de la ville, qui était d'Allemagne de l'Ouest avant la chute du mur de Berlin en 89. Et l'Union est le seul club de l'Est, de l'ancienne Allemagne de l'Est, de l'ancien Berlin-Est, à accéder à cette première division, à cette Bundesliga. Et donc, nous allons avoir ce week-end le tout premier derby entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et il est très spécial, ce derby-là, Hakim, parce que contrairement à d'autres derbys au cœur des villes, comme par exemple Liverpool-Everton, comme par exemple les derbys en Turquie, comme par exemple un Lyon-Saint-Etienne, comme par exemple un Monaco-Nice, il n'y a absolument pas d'animosité entre ces deux clubs-là. Et c'est même mieux que ça. On s'est entraidé, on s'est serré un peu les coudes pendant les années 70, par exemple. Les gens de Berlin-Est accompagnaient les supporters du Hertha Berlin lorsque celui-ci allait en Coupe d'Europe dans les pays de l'Est. Et donc, il va y avoir une fraternité, on peut imaginer, dans ce derby-là. Alors, bien sûr, il y a une rivalité et bien sûr, on veut prendre des points. Mais c'est un peu particulier et c'est historique aussi de mon point de vue pour ça. Parce qu'il y a une réelle entente, je crois que c'est le mot qui va bien, entre ces deux clubs-là et surtout entre les supporters de ces deux clubs. Donc c'est vraiment une première sur le plan historique et en plus un derby qui a un parfum très spécial. Moi ça me fait beaucoup d'émotion de retrouver ces deux clubs-là ensemble en première division parce que c'est une ville qui est très grande et qui mérite d'avoir deux clubs dans cette élite allemande.
Voilà, c'était l'occasion de parler de ce match, bien entendu, un match intéressant. Et le Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, le Bayern, l'Eintracht Francfort, on en a souvent en parlé. On revient en Espagne, le Real, c'est un des temps forts, même si le Betis a du mal ces derniers temps, mais on le sait, un déplacement en terre andalouse, que ce soit pour le FC ou bien le Betis, c'est souvent difficile, d'autant plus que le Betis reste sur une victoire étriquée grâce à Fekir Fred.
Oui, dans ce cas, c'est à Madrid le match. Hein,
oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Betis.
J'ai eu peur. Non, j'ai eu peur d'un coup. Je me suis dit, aïe, 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 je crois que je n'ai pas réservé mon billet de train. Mais ce sera 12 minutes de chez moi à pied.
C'est moi qui dois réserver alors.
Voilà, c'est toi qui dois prendre ton avion. Et bien sûr, tu restes à la maison. Hein, j'ai ta chambre qui est prête.
C'est gentil. Aller à Madrid pour rester à la maison, c'est pas intéressant, en fait.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, le Real Madrid est une équipe qui a été fragile à l'extérieur comme à domicile. Et sincèrement, je vais vous dire, cette Liga est tellement folle, avec toutes les équipes qui se tiennent en 2 points, en 3 points, en tout cas les 7-8 premières. Jouer à la maison, jouer à l'extérieur, t'es obligé, même quand t'es le Real, d'être ultra concentré. C'est vrai qu'au Benito Villamarine, il y aurait peut-être la ferveur du public, mais cette équipe de Betis, elle a besoin de points. L'entraîneur est sur la sellette. S'il n'y avait pas eu le but de Nabil Fekir mercredi soir contre le Celta Vigo à la 90e minute, l'entraîneur Ruby aurait été viré. Donc c'est une équipe fragile, mais il y a la volonté au Real d'enchaîner. C'est-à-dire que cette victoire à Galatasaray était très importante. Là, ils étaient très contents, le 5-0. Pourquoi ils font 5-0 contre les Ganes? Parce qu'ils ne se sont pas contentés de 2 ou 3-0. Il y avait vraiment l'envie d'être concentré, d'aller jusqu'au bout de cette rencontre. Et c'est ça qui a fait plaisir à Zidane et à son staff. Le Betis, c'est vrai que ça paraît une victime intéressante. Et puis, ça permet de bien préparer ce qui peut être le pas décisif, ou quasiment décisif, pour les qualifications 8e de finale en Ligue des Champions, que serait mercredi soir contre Galatasaray. Donc, on se retrouve avec un Real Madrid qui a la possibilité d'enchaîner 3 victoires en une semaine, qui donnerait vraiment beaucoup d'air à Zizou, qui, je vous l'avais dit la semaine dernière, était menacé en cas de défaite à Istanbul.
On a deux questions, deux réponses, deux propositions d'Oussama Hanich. C'est apparemment un supporter du Barça, mais qui n'aime pas trop Valverde, l'entraîneur. Pour lui, il dit le Barça joue mal, malgré la large victoire mercredi. Et comme je l'ai toujours dit, Valverde ne mérite pas le Barça. Un, et pour lui, Griezmann doit jouer à la place de Suarez. Mais là aussi, c'est Messi qui décide, Fred.
Oui, mais c'est une très bonne. C'est Oussama Hanich, hein, c'est ça, hein,
oui, notre auditeur.
Bah, Oussama Hanich, qui est un fidèle auditeur de l'avant-match et de l'après-match, il a raison. Le meilleur poste pour Griezmann, ce serait de jouer dans l'axe. Sauf que Messi est le patron et que l'ami Messi s'appelle Suarez. Et donc, en arrivant, et comme le dernier arrivé, c'est Griezmann, bah, il doit se contenter de ce qu'il y a. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Thierry Henry, avec qui j'avais plutôt de bons rapports. Pas des rapports très sympathiques, hein, parce que bon, voilà, c'est quelqu'un d'assez froid et c'était pas du tout mon copain, mais j'ai eu plusieurs discussions au football intéressantes. Et moi, je me souviens d'un match au Calderon à l'époque, après un match du Barça contre l'Atlético. Et après, je lui dis, bah, ça marche bien pour toi, etc. Il me dit, oui, mais parce que je me suis sacrifié, parce que je joue à gauche. Voilà, c'est pas la première fois qu'une grande star du football, pour pouvoir jouer au Barça, se sacrifie et accepte un poste qui n'est pas le sien. Donc dans ce cas-là, on peut faire un parallèle très clair entre la situation que vivait Thierry Henry et la situation que vit actuellement Antoine Griezmann. Mais après, c'est Antoine qui a choisi. Il savait très bien que ça allait se passer comme ça.
Rapidement, David, rapidement. On parlait tout à l'heure du Hertha Berlin. Deux affiches rapidement pour le week-end. On a 30 secondes.
Ben, y a un match très important. Ce qui est bien dans cette Bundesliga, c'est vraiment la densité là en haut du classement avec plein d'équipes intéressantes à suivre. Et notamment, je veux insister et faire un petit focus rapide, Hakim, sur l'Eintracht Francfort. Parce que cette équipe est méritante et elle est vraiment intéressante cette saison. Elle rencontre un gros ce week-end et forcément avec le Bayern Munich, c'est forcément toujours compliqué. Mais ça va être encore un révélateur pour Niko Kovac et aussi pour l'Eintracht pour se mesurer au top niveau européen. C'est ce match-là, moi, qui m'intéresse en priorité ce week-end.
Merci beaucoup, David Lortolari, notre monsieur football allemand. Merci beaucoup à Frédéric Hermel, notre monsieur football espagnol. Merci beaucoup et à lundi prochain pour revenir sur les faits marquants du week-end. On rappellera que, eh bien, le Real Madrid joue face au Betis de Séville au stade Santiago Bernabéu. Merci à tous nos auditeurs, Youssef Laroche, qui pense que, eh bien, Suarez doit quitter le Barça. Brada Redouane qui passe le bonjour à toute l'équipe. On passe le bonjour à toute l'équipe technique aussi, digital, à nos auditeurs, notre ami Nagy. Merci beaucoup pour votre fidélité et à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'après-match. On rappellera qu'au Maroc, demain, le derby casablancais entre le Raja et l'Ouak.
A sorpresa con un inserimento alle spalle della difesa.